Chère auditrice, cher auditeur, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast devoixpoétiques.com. Je suis votre hôte, David, et aujourd'hui nous allons explorer ensemble une des questions qui me semble être une des plus fondamentales pour notre humanité. Quelle est la véritable mission du poète ? Cette interrogation traverse les siècles, depuis l'Antiquité, où Platon chassait les poètes de sa république idéale, tandis qu'Aristote reconnaissait en eux les révélateurs de l'universel. Mon poème, humblement appelé « Poète », prend position dans ce débat millénaire. Il revendique pour le créateur de vers une vocation sacrée, celle d'être le témoin privilégié des mystères de l'existence. À l'heure où notre société techno-économique semble avoir marginalisé cette figure, j'aimerais que nous nous interrogions sur la pertinence éternelle de cette mission. Car si nous vivons effectivement une époque de désacralisation, de quantification du monde, de perte de sens contemplatif, peut-être avons-nous plus que jamais besoin de ces veilleurs de l'invisible, de ces traducteurs de l'ineffable. Alors laissez-moi vous lire tout d'abord ce poème, puis nous plongerons, comme à notre habitude, ensemble, dans cette méditation sur la vocation poétique. Ce rêveur, compagnon des étoiles, ce funambule de la vie, j'aurais tant aimé vivre l'époque du poète écrivain, du conteur, de la norme. Être poète, c'est accepter d'être apporteur des choses de l'existence, de la nature et de l'au-delà. C'est rendre la vue à celui qui ne voit pas, pour tous ceux qui ne regardent pas toujours au bon endroit, mais souhaitent, le cœur sincère, simplement vivre la sensibilité d'un être très humain. Ce poème s'ouvre sur une désignation apparemment simple, ce rêveur. Mais cette simplicité cache une profondeur philosophique très importante. Dans la tradition occidentale, le rêve occupe une position ambivalente. Les stoïciens y voyaient une source d'illusion dont le sage devait s'affranchir. Pourtant, qualifier le poète de rêveur n'est pas ici péjoratif. C'est revendiquer pour lui un mode d'accès particulier à la réalité. Le rêve représente cette capacité de l'esprit à transcender les contraintes du réel immédiat, à imaginer d'autres possibles, à entrevoir ce qui n'est pas encore, mais pourrait être. Aristote, dans son traité sur la divination, reconnaissait déjà que les songes pouvaient révéler des vérités inaccessibles à la conscience vigile. Le poète rêveur hérite de cette tradition par sa faculté onirique. Il perçoit des dimensions de l'existence que l'homme ordinaire, trop ancré dans le prosaïque, ne peut saisir. Cette figure évoque aussi le furor poeticus platonicien, cette folie divine qui saisit l'inspiré. Le poète ne fuit pas la réalité par le rêve. Il accède par lui à une réalité plus haute, plus vraie que celle des apparences. Son onirisme n'est pas évasion, mais révélation. Dans la métaphore « compagnon des étoiles », je souhaitais nous projeter dans la dimension cosmique de la vocation poétique. Les astres ont depuis toujours été les guides des navigateurs, des marqueurs du temps sacré, les signes du destin. Être leur compagnon, c'est revendiquer une familiarité avec l'immensité sidérale. Cette fraternité stellaire révèle la double nature du poète, enraciné sur Terre, par son humanité, mais familier du ciel par sa vocation. Il partage avec les étoiles cette solitude lumineuse, cet éclat dans l'obscurité générale. Comme elle, il guide les âmes perdues dans la nuit de l'ignorance. Dans la tradition hermétique, cette relation aux astres faisait du poète un magus, capable de lire les correspondances secrètes entre le macrocosme et le microcosme. Le poète compagnon des étoiles, c'est déchiffrer les signes que trace l'univers dans sa course perpétuelle. Il traduit en langage humain la musique des sphères que percevait déjà Pythagore. Ce funambule de la vie introduit la dimension du péril créateur. Le funambule évolue sur un fil tendu au-dessus du vide. Un faux pas et c'est la chute. Cette image révèle la précarité constitutive de la condition poétique. Le poète funambule occupe un espace liminal entre visible et invisible, entre dissible et indicible. Sa position est par essence instable, dangereuse. Il doit maintenir un équilibre perpétuel entre des forces contradictoires, inspiration et technique, émotion et raison, individualité et universalité. Cette métaphore évoque Nietzsche et son homme-corde tendu entre la bête et le surhomme. Le poète incarne cette humanité transitoire, cette tension créatrice, entre ce qui fut et ce qui pourrait être. Mais là où le funambule ordinaire fascine par sa prouesse technique, le poète funambule nous révèle la beauté vertigineuse de l'existence elle-même. Dans ce poème, je vous ai fait une confession mélancolique. J'aurais tant aimé vivre l'époque du poète écrivain, du conteur de la norme. Ici, je vous ai révélé une forme de nostalgie profonde, celle de l'artiste marginalisé. Cette époque évoque plusieurs âges d'or possibles. L'antiquité homérique, où la haine gardait la mémoire collective, le Moyen-Âge courtois, où le troubadour régnait sur les cours, le XIXe siècle romantique, où Victor Hugo pouvait prétendre être l'écho sonore de son temps. Le terme « norme » est particulièrement révélateur. Il ne s'agit pas de regretter une normalisation de la poésie, mais de déplorer qu'elle soit devenue l'exception. Quand le poète était la norme, la société reconnaissait la nécessité de son rôle, l'évidence de sa fonction. Cette nostalgie révèle un diagnostic sur notre époque. Nous aurions perdu quelque chose d'essentiel en marginalisant la parole poétique. Dans notre société techno-économique, la figure du poète-prophète semble totalement anachronique. Pourtant, cette marginalisation même pourrait révéler la dimension prophétique authentique de la poésie moderne. La référence au conteur évoque la tradition orale, cette transmission directe de la sagesse par la parole vivante. Le poète moderne, isolé dans son écrit, regrette cette immédiateté de la communication, cette communion directe avec son auditoire. Mais cette nostalgie contient peut-être sa propre réfutation. Car si le poète regrette ces époques révolues, c'est précisément parce qu'il maintient vivante la mémoire. Sa mission n'a pas disparu, elle a seulement changé de forme. Dans un monde qui a oublié le sens du sacré, il devient le gardien de cette dimension perdue. Être poète, c'est accepter d'être apporteur des choses de l'existence. Et nous voici là, au cœur de la définition poétique. Le verbe « accepter » révèle que cette vocation n'est pas choisie, mais qu'elle est reçue, qu'elle s'impose à celui qui en devient le porteur. Cette acceptation évoque l'éthique stoïcienne du fatum, mais aussi la tradition prophétique. Le prophète biblique ne choisit pas sa mission. Elle lui est imposée par une force qui le dépasse. De même, le poète authentique découvre qu'il ne peut faire autrement que de porter témoignage de ce qu'il voit et de ce qu'il entend. Le terme rapporteur révèle la précision de cette mission. Il évoque à la fois le journaliste qui informe et le témoin qui atteste. Le poète n'invente pas, il rapporte. Mais ce qu'il rapporte, ce sont les choses de l'existence, c'est-à-dire tout ce qui échappe généralement à l'attention commune. De la nature et de l'au-delà, cette précision circonscrit les domaines du témoignage poétique selon une tripartition classique, l'existence humaine, le cosmos physique et la dimension transcendante. L'existence, c'est d'abord l'expérience humaine dans sa dimension existentielle, l'amour, la mort, la joie, l'angoisse. Le poète chronique l'âme humaine. C'est donner forme aux mouvements les plus subtils de l'intériorité. La nature représente ce cosmos qui nous précède et qui nous dépasse. Depuis les présocratiques, le poète entretient avec elle un rapport privilégié. Il lit le livre du monde, déchiffre les correspondances secrètes et il entend cette harmonie cosmique qui échappe à l'oreille profane. L'au-delà désigne cette dimension transcendante qui hante toute existence humaine. Que ce soit l'absolu métaphysique, le sacré religieux ou simplement cette part irréductible de mystère, le poète se fait le témoin de ce qui échappe à la science positive. C'est rendre la vue à celui qui ne voit pas. Cette métaphore qui est presque médicale révèle la dimension thérapeutique de l'art poétique. Le poète n'est pas seulement témoin, il est guérisseur. Sa parole possède une efficacité, une sorte de vertu curative. Cette image évoque la tradition platonicienne de la thérapeia de l'âme. Dans le Phèdre, Platon montre comment certains discours peuvent guérir l'âme de ses maux, la ramener vers la vérité et la beauté. Alors, on a là un poète ophtalmologiste de l'âme qui intervient pour restaurer une vision perdue. La cécité dont il s'agit n'est pas physique, mais elle est bien évidemment spirituelle. C'est cette myopie moderne qui fait que l'homme ne voit plus que l'utile, l'immédiat et ce qui est quantifiable. Il a perdu la capacité d'émerveillement. Il a perdu, à mon sens, cette sensibilité aux dimensions qualitatives de l'existence. Pour tous ceux qui ne regardent pas toujours au bon endroit, c'est ici une formule qui révèle un diagnostic précis de la condition contemporaine. Le problème n'est pas l'absence de regard, mais son orientation défaillante. Cette mésorientation évoque la métaphore platonicienne de la caverne. Les prisonniers ne sont pas aveugles, ils regardent, mais vers les ombres au lieu des réalités. De même, l'homme moderne regarde, mais vers ce qui ne mérite pas d'être vu. Et cette erreur révèle une pathologie de l'attention. Dans un monde saturé d'informations et de distractions, on a maintenant un homme contemporain qui perd la capacité de discerner l'essentiel de l'accessoire. Il regarde tout et finalement il ne voit rien du tout. Mais souhaite le cœur sincère simplement vivre la sensibilité d'un être très humain. Cette finalité révèle les conditions nécessaires à l'efficacité de l'art poétique. La poésie ne peut opérer que sur celui qui l'accueille avec un cœur sincère. Cette sincérité évoque la notion biblique de cœur pur, cette disposition intérieure qui permet de voir Dieu. Dans le contexte poétique, c'est cette ouverture authentique qui permet de recevoir la révélation esthétique. Elle s'oppose à tous les faux-semblants, à tous les masques sociaux qui empêchent la véritable rencontre. Elle suppose un dépouillement aussi, une simplicité qui devrait être retrouvé. Le lecteur de poésie doit accepter de redevenir un enfant, de retrouver cette capacité d'étonnement que l'âge adulte, malheureusement, et l'expérience tend à émousser. Le souhait de simplement vivre la sensibilité d'un être très humain révèle la finalité ultime de l'art poétique. Non pas l'évasion hors de l'humain, mais l'approfondissement de l'humanité. Cette sensibilité évoque la tradition esthétique allemande. La poésie éduque la sensibilité, la raffine, l'approfondit, lui donne accès à des registres inédits. L'adjectif « très humain » mérite attention particulière, contrairement au « trop humain » nietzschéen. Il revendique l'humanité comme horizon précieux. Être très humain, c'est assumer pleinement cette condition avec ses grandeurs et ses fragilités. Cette conception de la mission poétique s'enracine dans la tradition antique. Chez Homère, l'Aède était l'inspiré des muses, le porteur de la mémoire collective, le gardien de la sagesse ancestrale. Sa fonction était simultanément esthétique, pédagogique et aussi religieuse. Hésiode, quant à lui, se présente comme celui qui a reçu des muses la mission de chanter la naissance des dieux et l'origine du monde. Cette conception du poète comme révélateur des vérités cosmiques va traverser toute l'Antiquité. Pindare développe quant à lui l'idée du poète comme artisan de l'immortalité. Par ses chants, il arrache les héros à l'oubli, leur confère une gloire éternelle. Et cette fonction mémorielle fait du poète le vainqueur du temps. Aristote, dans sa poétique, opère une réhabilitation complète de l'art poétique face aux critiques platoniciennes. Pour lui, la poésie est plus philosophique que l'histoire, parce qu'elle révèle l'universel à travers le particulier. Cette conception éclaire parfaitement le poème d'aujourd'hui. Le poète y est présenté comme celui qui sait extraire de l'expérience singulière une vérité universelle. Il ne s'agit pas de raconter des anecdotes personnelles, mais de révéler, à travers sa sensibilité particulière, quelque chose qui concerne tous les hommes. Et parfois, je dois bien vous l'avouer, je regrette un petit peu, et je me permets de le souligner maintenant sur ce point, je regrette un petit peu toute cette poésie que je nommerai pas moderne parce que le terme ne serait pas juste, mais en tout cas actuelle, ça c'est certain, avec une recherche à se faire du bien, une sorte de développement personnel. Un développement personnel faisant écho, forcément, dans quelques personnes en recherche de ce type de sensation, d'accéder à ce type de savoir, mais qui, pour moi, ne va pas chercher bien loin. Mis à part, peut-être, à celui qui l'écrit en se faisant du bien à lui-même. Dans notre monde contemporain, qui, comme je vous le disais, est finalement dominé par la technique et par le monde économique, cette mission de poète garde pour moi toute son actualité. Nous sommes actuellement face à la désacralisation, à la perte du sens, à l'oubli de la dimension contemplative, et le poète maintient vivante une autre possibilité d'être au monde. Sa fonction de rapporteur prend une urgence particulière, dans une époque de surinformation où l'essentiel risque d'être noyé dans l'accessoire, le poète opère un tri qualitatif et il nous apprend à distinguer ce qui mériterait un peu plus d'attention. Sa mission thérapeutique répond à une pathologie spécifiquement moderne, la cécité spirituelle induite par la mécanisation de l'existence. Dans un monde où tout devient fonctionnel, il maintient l'accès à la dimension gratuite et contemplative. En conclusion, ce poème nous révèle que la mission du poète transcende les époques et les circonstances. Qu'il soit honoré dans les palais ou marginalisé dans les sociétés industrielles, il remplit toujours la même fonction essentielle, maintenir vivant le lien entre l'humain et le mystère qui l'enveloppe. Cette mission n'est pas une profession, mais c'est bien sûr une vocation. C'est pas un métier, mais c'est un sacerdoce, véritablement. Elle s'impose à celui qui ne peut pas faire autrement que de voir, d'entendre, de sentir ce que les autres négligent. Le poète n'écrit pas par choix, mais par une forme de nécessité intérieure, un besoin. Sa précarité, eh bien, c'est aussi sa grandeur. Parce qu'il accepte de vivre en équilibre instable entre la communauté humaine et les puissances cosmiques. Il peut témoigner d'expériences inaccessibles aux autres. Et sa vulnérabilité, devient fécondité. Dans notre époque obsédée par l'efficacité immédiate et la rentabilité mesurable, le poète maintient vivante d'autres valeurs, telles que la contemplation, comme je vous le disais tout à l'heure, mais aussi l'émerveillement. Et cette inactualité apparente peut être le signe de sa nécessité future. Car l'humanité ne peut indéfiniment vivre coupée de ses sources spirituelles, j'en suis persuadé depuis très longtemps maintenant. Tôt ou tard, elle éprouvera le besoin de retrouver contact avec cette dimension poétique de l'existence que notre époque tend aujourd'hui à refouler. En attendant cette reconnaissance, le poète continue sa veille solitaire. Il reste ce compagnon des étoiles et frère des hommes, funambule de la vie et gardien de l'éternité. Il maintient ouvert le chemin qui mène de l'humain vers ce qu'il peut devenir de plus grand. Voilà la mission éternelle du poète, être le révélateur de l'humain à lui-même. le traducteur de l'invisible en visible, le passeur entre ce qui est et ce qui pourrait être. C'est une mission humble et que je trouve à la fois grandiose, qui fait du poète le serviteur de cette part d'infini que chaque être humain porte en lui. Je vous remercie grandement de m'avoir accompagné dans cette exploration. Puissions-nous tous accepter d'être un peu ces rapporteurs des choses de l'existence dans notre monde qui, je pense, en a véritablement besoin et plus que jamais. Je profite de la fin de ce podcast pour vous inviter à vous rendre sur le site voixpoétique.com quand vous aurez le temps, sur un ordinateur ou votre téléphone. Le site s'adapte aux deux supports ou votre tablette aussi également maintenant. Vous y trouverez dans la rubrique Contact ou aussi également dans le blog un tout nouveau post vous faisant une proposition pas commune sur le web sur laquelle je vous donne mon adresse. J'ai supprimé toute formule de contact par le biais du formulaire numérique par lequel je correspondais par mail jusque-là avec un certain nombre d'entre vous. Alors bien sûr, la voie numérique, pour ceux qui ont d'ores et déjà mon mail, eh bien, vous pouvez continuer à l'exploiter et je vous répondrai bien sûr avec un très grand plaisir. Mais je vous invite dorénavant à me joindre par courrier, par voie postale. Ça vous coûtera le prix d'un timbre qui aujourd'hui doit être aux alentours de 1 euro, je sais plus le prix, mais 1 euro 60 je crois à peu près. Et je vous enjoins effectivement, si vous le souhaitez, à m'écrire, à me partager vos sensations, vos poésies. Et deux choses. Bien sûr, je répondrai à tous vos courriers écrits par voie postale. Et je vous propose à la fin de votre lettre, si vous le souhaitez, et si celui-ci, bien sûr, porte un peu un sens et un poème, bien évidemment, à indiquer que vous êtes d'accord pour que je le poste avec votre nom, ou mettez un pseudo, si vous le voulez, à la fin, pour le partager à l'ensemble des lecteurs de Voix Poétique. Alors attendez-vous quand même à être en public, puisque le site a des visites constantes tous les jours de centaines de personnes, et que le podcast a tout autant d'écoutes par jour. Voilà, mais je vous propose sur le site, effectivement, bien de partager vos poèmes ou vos pensées profondes. Et bien sûr, je rendrai à César ce qui est à César en indiquant votre, bah, selon comme vous me l'indiquerez, votre nom, votre pseudo. Voilà. N'hésitez pas aussi à indiquer, même si moi je ne suis présent sur aucun réseau social, j'indiquerai avec plaisir bien sûr vos réseaux sociaux si vous le souhaitez, et si vous souhaitez vous créer un petit peu de trafic, si je peux dire ça comme ça. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie sur ce thème du poète, et je suis déjà très pressé de vous retrouver dans une quinzaine de jours, dans un nouvel épisode. C'était David pour le podcast de voixpoétique.com.